Donc, dans les dernières semaines, on a vu la colonne de droite, là, les nations, la grâce, les vêtements, la voix. Donc, c'est tous des thèmes qui, normalement, on retrouve dans plusieurs sections de la Bible. Aujourd'hui, on va voir le thème de l'élection. C'est une doctrine, mais... Donc, l'élection, c'est une doctrine chrétienne, mais c'est aussi un thème important de la Bible. Même, je dirais que c'est d'abord un thème qu'on découvre en voyant tout le récit de la Bible. C'est présent d'ailleurs dans toutes les sections de la Bible. L'élection dépend, comme on va le voir, de la nature même de Dieu. De qui est Dieu? D'abord, Dieu est un être qui connaît tout, une connaissance infinie, c'est son omniscience. Ça dépend aussi de sa toute-puissance, donc il est omnipotent, il peut tout faire. Sa souveraineté aussi, c'est qu'il domine. Il n'y a pas de compte à rendre à personne, il est au-dessus de tout. Il est absolument souverain sur tout. On parle aussi de sa providence, c'est qu'il fait concourir tous les événements pour exécuter son plan. Donc, non seulement il est souverain, puis il a un plan, et il est capable, mais il le fait, là. Il accomplit son plan en contrôlant, souvent d'une manière invisible, mais les événements, les personnes, pour exécuter son plan. Et... bien sûr, son éternité, sa sagesse, son amour, sa gloire. En fait, l'élection est possible seulement si Dieu est vraiment celui qui déclare être. On va commencer par regarder la situation de l'homme à l'origine, à la création. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là, parce qu'il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'image? Mais il y a une raison qui est donnée lorsqu'il le déclare. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. » Donc Dieu a fait l'homme et la femme, à son image, pour qu'il puisse dominer sur la création. Il domine sur les animaux de la mer, de la terre, du ciel. Donc, quelle qualité est nécessaire dans l'homme pour qu'il puisse dominer, logiquement? Pardon? Oui, à l'image de Dieu. Et ce serait quoi? Quel aspect de l'image de Dieu est important là, pour qu'il puisse dominer? Oui, donc il doit être capable d'avoir une sagesse, une conscience du moins qu'il existe d'abord, puis de prendre des bonnes décisions. Oui, il doit être capable d'être souverain lui-même, comme un ambassadeur de Dieu. Oui, afin qu'il domine. Et ce qui est sous-entendu aussi, mais c'est une évidence, c'est que l'homme doit posséder une volonté. Même la capacité de prendre des décisions, la capacité de dominer, donc jusqu'à un certain point, un libre arbitre. C'est ça qu'on dit souvent que Dieu a créé l'homme pas comme un robot qui exécute un programme, mais vraiment comme un être capable de penser, d'interagir avec Dieu, d'interagir avec la création, de faire des choix, donc un certain libre arbitre, une volonté. Ça a du sens? On va revenir là-dessus tantôt. Mais la chute est survenue. Et malheureusement, ce que ça souligne, c'est qu'avec le libre arbitre vient une responsabilité. Responsabilité de faire les bons choix. L'homme est tenu responsable de ses actes. Mais Dieu l'avait déclaré d'ailleurs, hein? Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait une limitation. Malheureusement, Adam et Ève ont mal utilisé leur libre arbitre. Ils ont jugé finalement que c'était préférable de manger de l'arbre, que leurs conditions allaient être meilleures. Ils ont été séduits. Mais ils ont été tenus responsables de ça. Donc, ça constituait un péché, puis ils en subissent les conséquences, puis toute l'humanité avec eux. Il y a des conséquences spécifiques pour l'homme, spécifiques pour la femme, mais c'est pour toute l'humanité. Une malédiction qui était associée. D'ailleurs, la Bible insiste souvent sur la responsabilité de l'homme plutôt que sur le libre arbitre. Si on essaie de trouver des passages de la Bible qui nous enseignent que l'homme est capable de prendre des décisions puis qu'il est libre, il n'y en a pas vraiment. C'est plutôt admis comme une évidence. On est capable de réfléchir. Mais la Bible insiste sur le fait qu'on est responsable. Puisqu'on peut prendre des décisions, on est responsable. On a un choix devant nous, là. Le bien et le mal, obéir, désobéir, agir avec sagesse ou comme un insensé. Et c'est intéressant de voir que Dieu a jugé le serpent, Satan, qui a fait tomber l'homme, qui a introduit le mal dans le monde. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras ou écraseras le talon. » C'est le même mot. Donc, Satan va faire mal à la descendance de la femme, mais éventuellement, la descendance de la femme va vaincre. Donc, qu'est-ce que ça nous révèle, ce verset-là? Différents éléments à propos de Dieu. C'est vrai. Oui, il est souverain. Là, il y a un plan. Il révèle ici une partie de son plan, c'est qu'il veut sauver l'humanité. Donc, l'humanité a tombé à cause du serpent, mais un jour, là, la descendance de la femme va avoir le dessus. Là. Celui qui a été le séducteur, le tentateur, il va être vaincu. Et il va le faire par la descendance de la femme, en détruisant la descendance du serpent. Puis, qu'est-ce qu'on comprend de Dieu par rapport à l'avenir? Oui, c'est lui qui contrôle l'avenir. S'il peut déclarer une chose comme ça, c'est parce qu'il va s'assurer lui-même que ça arrive. Oui. Oui, ça procure une assurance, une consolation pour Adam et Ève qui viennent de... ou plutôt qui vont être jugés dans les versets suivants, là. Les versets juste avant. Mais en tout cas, il y a une condamnation, ils sont même chassés du jardin d'Éden, mais là, il y a une consolation, une espérance. Mais ce qu'on comprend sur Dieu dès le départ, dès les premiers chapitres de la Bible, c'est que Dieu connaît l'avenir. Il n'y a rien qui lui échappe. Là. Il voit plus loin. Nous, on ne voit pas ce qui va arriver demain. On ne voit même pas ce qui va arriver dans une heure. Mais Dieu connaît l'avenir et, comme vous l'avez dit, il le contrôle. S'il peut promettre et déclarer des choses, c'est parce qu'il a le contrôle sur l'avenir. C'est une déclaration forte là, qu'il fait dès le début du récit de la Bible. Dans la première partie de la Bible, les 11 premiers chapitres, là, on a l'impression que la descendance du serpent a pris le dessus. Elle semble triompher. On voit Caïn qui tue Abel dans Genèse 4. On voit la population mondiale qui est corrompue, qui remplit la terre de violence et qui est détruite par le déluge. Il y a seulement Noé et sa famille qui est épargnée. Donc, on dirait vraiment que comme la descendance du serpent, descendance spirituelle, là, a le dessus. Puis après le déluge, ça recommence. La civilisation mondiale, après le déluge, se construit une tour à Babel pour se faire un nom, être indépendant de Dieu. Donc, ils sont toujours aussi rebelles, portés vers le mal. C'est dans ce contexte-là, dès le chapitre suivant, que là, Dieu intervient puis il montre comment il va accomplir son plan pour sauver l'humanité là, par la descendance de la femme. Et c'est par l'élection. Donc, l'élection, c'est vraiment au cœur là, du plan de salut de Dieu. Donc, une étape très importante du plan de salut de Dieu, c'est l'alliance qu'il conclut avec Abraham et sa descendance. On va aller lire ça, Genèse 11, 27 jusqu'à 12, 7. Donc, la question, c'est pourquoi Abraham? Des milliers, là, je ne sais pas combien qu'ils étaient d'habitants sur la terre. Pourquoi Abraham plus qu'un autre? Pardon, Patrick, parce que Dieu l'a voulu. C'est ça, c'est ce qu'on voit. C'est uniquement le choix de Dieu. Il n'y a aucune raison qui est donnée. Dieu a fait en sorte que Terah, le père d'Abraham, parte avec sa famille, s'en va à Aram, puis Dieu apparaît à Abraham, puis lui dit, « Tu pars. » Il n'y a aucune raison du choix qui est donné. Vraiment, ça souligne vraiment la souveraineté de Dieu. Abraham a obéi à l'appel, c'est vrai. Dans cela, on peut voir des qualités peut-être que Dieu a appréciées d'avance là, chez Abraham, mais... Est-ce que Abraham était déjà un adorateur de l'Éternel avant que Dieu l'appelle à lui? Est-ce que Abraham avait déjà comme mérité son statut puis dire, ah ben c'est parce que Dieu était fier de moi, je suis un homme fidèle à sa parole. Et on va lire, quelqu'un pourrait nous lire Josué 24, 1 à 3, une indication de ça. Parce qu'Abraham était déjà un adorateur de l'Éternel quand il a été choisi. Oui, donc est-ce qu'Abraham était déjà un adorateur de l'Éternel? Non, lui et sa famille, ils adoraient d'autres dieux. Des dieux païens inventés. Donc c'était l'idolâtrie. Donc vraiment, on voit que Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'il le méritait. Puis Dieu, en élisant Abraham et sa descendance, par le fait même, Dieu s'est choisi un peuple. On lit dans le psaume 33, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Dieu a vraiment choisi la descendance d'Abraham. Psaume 135, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne en propre. » Il va leur dire d'ailleurs à la sortie d'Égypte, au mont Sinaï, « Tous les peuples m'appartiennent, toute la terre m'appartient, mais vous, je vous prends en particulier. Ça va être mon bien, mon trésor. » Et les prophètes ont rappelé souvent au peuple son élection. Et c'était parfois pour lui rappeler, tu appartiens à Dieu, tu dois lui obéir, mais souvent aussi pour le consoler, pour l'encourager. Ésaïe 41 dit, « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. » Dieu a fait un choix, puis il ne change pas d'idée, là. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Alors, c'est encourageant, ça. Donc, Dieu rappelle, je t'ai choisi, là. Je ne vais pas t'abandonner. L'élection d'Israël est entièrement attribuée à l'amour de l'Éternel. Dans Deutéronome 4, « Il a aimé tes pères et choisi leur descendance après eux. C'est pourquoi il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. » Qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël pour mériter d'être choisi? Est-ce que Dieu avait vu d'avance leur justice, leur obéissance? Non, c'est intéressant de voir dans Deutéronome que Dieu a plutôt vu le contraire. On pouvait le constater. Et quelqu'un pourrait nous lire ça? Deutéronome 7, des versets 7 et 8, et 9, versets 6 et 7. Ouais, donc un peuple rebelle à la nuque raide, orgueilleux, insoumis. Je vous l'ai peut-être raconté, mais quand j'étais jeune, on avait été acheter un chien, un bébé chien, d'une portée là, de plusieurs chiots. Et quelqu'un nous avait dit, un des trucs, c'est que tu prends le chiot par la peau du cou, tu le lèves dans les airs pour voir sa réaction. Puis, il y en a plusieurs qui vont se débattre. Mais on avait pris une chienne, là, Pucci. On l'a lu par le cou, puis elle ne bougeait pas. Ah! Elle n'avait pas la nuque raide, le cou roide. Elle était une bonne chienne. Mais Israël, c'était pas le cas. Il était plutôt rebelle. Mais pourtant, Dieu les a choisis. Donc, il leur rappelle, c'est pas parce que vous êtes meilleurs que les autres que Dieu vous a choisis. Dieu vous aime. On voit dans l'histoire d'Israël que le thème de l'élection revient souvent. Plusieurs fois, Dieu choisit des personnes ou des groupes pour des tâches spécifiques. Et c'est jamais parce qu'il y a un concours, puis celui qui est le meilleur est élu. C'est vraiment le choix arbitraire là, de Dieu, selon sa volonté. Dieu choisit Moïse pour libérer Israël. On voit finalement que c'était un bon conducteur pour le peuple. Mais Moïse ne voulait même pas. Il dit, on prend quelqu'un d'autre, je ne suis pas capable. Et naturellement, là, humainement, il n'y avait pas les qualités. Là. Mais Dieu l'a choisi dans Exode 3. Dieu plus tard choisit la tribu de Lévi. Parmi les 12 tribus, il choisit Lévi pour être à la prêtrise, le sacerdoce. Son choix. Il choisit Aaron, le frère de Moïse, et ses fils pour être souverain sacrificateur. Même il y a un débat, il y a une guerre parce qu'il y en a qui sont jaloux. Et Dieu leur donne une bonne leçon là, pour montrer, non, c'est Aaron que j'ai choisi. Plus tard, pour la construction du tabernacle, il choisit Betsaleel et s'appelle l'autre gars, là. Il est rempli de sagesse pour pouvoir faire tous les ouvrages pour le tabernacle, toute la confection. Oliab. En tout cas, mais Dieu il dit que c'est lui qui l'a appelé. Il lui donne toutes les capacités pour la construction du tabernacle. Plus tard, Dieu choisit David. Même il va lui rappeler, c'est moi qui t'ai pris là, quand tu étais dans le champ, là, derrière les brebis. Je t'ai pris, je t'ai établi roi. Dieu a choisi Salomon aussi pour qu'il construise le temple. Et pour être sur le trône, parce qu'il y avait plusieurs fils, David. Hein? En plus, le fruit de l'adultère. C'est vrai. Même les circonstances montraient qu'il y en avait un autre qui était en train d'être élu, mais Dieu a changé ça. Il a vraiment montré que c'est ma volonté que ce soit Salomon. Oui, Michel?
C'est Oliab.
Oliab, oui, c'est ça. Puis, tous les prophètes ont été choisis par Dieu, mais Jérémie et Ésaïe le soulignent dans le texte, là, clairement. Là. Jérémie a été choisi même alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Dieu l'avait établi prophète. Dans Ésaïe 6 aussi, on voit que Ésaïe est désigné. C'est le choix de Dieu. Ouais, Samuel aussi, c'est vrai. Dieu l'a fait naître alors que sa mère avait déjà promis qu'elle allait le consacrer. Alors, il y en a plusieurs, hein, la liste est longue, je ne sais pas si vous en pensez à d'autres personnages. Mais... Il avait donné un signe clair que c'était par Isaac. Parce que le premier-né d'Abraham, c'était Ismaël. Il a dit non, c'est pas lui le fils de promesse. C'était un message clair. Alors, pourquoi... Donc, toute l'histoire d'Israël montre que même si le peuple a été élu comme nation pour Dieu, c'est l'aspect qui est plus négatif dans l'histoire d'Israël, c'est que c'est pas tous les Israélites, même s'ils étaient circoncis et qu'ils étaient fils d'un Israélite, ils faisaient vraiment partie du peuple de Dieu élu. Bien, la nation était élue, là, mais quand on dit le peuple de Dieu, c'est exprimé souvent sur le thème du reste. Donc, à cause de leur péché, la nation a été divisée. On voit déjà que la nation se trouve mal. Déjà, dès le fils de Salomon, là, sous Roboam, la nation est divisée à cause du péché. Israël du nord, Juda dans le sud, ils ne sont plus jamais réconciliés jusqu'au retour d'exil. C'est pas encore les 12 tribus comme il avait été établi là, sous Josué, avec leurs 12 territoires, là. Bien, 11. Puis, après plusieurs générations marquées majoritairement par l'infidélité à Dieu, parce qu'ils étaient rebelles, donc ils retombaient toujours, Israël du Nord puis Juda ont été détruits, puis les habitants ont été déportés. Pourtant, Dieu avait promis là, qu'il n'abandonnerait pas son peuple, mais plusieurs fois, il a été révélé au prophète qu'en réalité, son peuple, c'était un reste qui lui était fidèle. Un reste de la nation d'Israël qui était vraiment le peuple de Dieu. Il dit au prophète Élie, dans 1 Roi 19, « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Donc, tu sais, garder un reste. Dans Ésaïe 10 aussi, « Il arrivera en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. L'extermination est décidée et elle fera déborder la justice. Donc, même ceux qui étaient, il y avait la circoncision physique qui était la marque qu'on faisait vraiment partie de la nation d'Israël sous l'ancienne alliance. Ça ne pouvait pas garantir que l'Israélite appartenait effectivement au peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça prenait, en plus de la circoncision physique? Ouais. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Donc déjà, ils n'étaient même pas encore entrés dans la terre promise, puis Moïse leur dit, vous ne serez pas fidèles. Mais un jour, Dieu va circoncire votre cœur. Le cœur de ta descendance, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Que tu vives. Et au temps, plusieurs générations plus tard, au temps de la déportation, Jérémie rappelle ça. Soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, homme de Juda, habitant de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. » Mais là, il y a une tension, là, parce qu'ils ne sont pas circoncis du cœur, puis Jérémie leur dit « Circoncisez vos cœurs. » Mais comment ils peuvent faire ça? C'est comme une impuissance. Mais là, la beauté dans Jérémie, c'est que ça fait partie de la promesse de Dieu. Une circoncision du cœur qui est annoncée dans le cadre de l'établissement d'une nouvelle alliance. Jérémie 31, on va le lire. 31 à 34. Bon, il ne parle pas spécifiquement de la circoncision, mais il parle de l'intervention du cœur. Ézéchiel en parle aussi, Ésaïe aussi. Il y a beaucoup d'éléments dans cette promesse-là, mais qu'est-ce que Dieu promet spécifiquement pour le cœur, pour l'intérieur, là? Qu'est-ce qu'il allait accomplir? Il va mettre sa loi. Ouais, ça veut dire quoi, ça? Oui, il va les rendre obéissants. Et on comprend dans Ézéchiel que c'est parce qu'il va mettre son esprit. Ouais. Donc, il va transformer le cœur pour qu'il devienne obéissant. Et il va faire en sorte aussi que chacun va connaître Dieu. La connaissance, dans la Bible, c'est vraiment d'être en relation. Ils vont vraiment connaître Dieu pour vrai. Pas seulement savoir qu'il y a Dieu dans la loi, là, mais ça, Dieu va être vraiment leur Dieu. Donc, ça prend un changement du cœur pour ça. Et c'est Dieu qui va l'opérer. C'est ça la beauté ici. Donc, on voit encore sa souveraineté. Dieu intervient pour transformer le cœur. Puis, il va établir une nouvelle alliance, donc un lien fort encore avec son peuple. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Là. Il n'y a pas de malédiction associée. Ouais, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il dit que la nouvelle alliance, elle est différente. Elle n'est pas comme la première. Il y a une différence dans ça qu'il n'y a pas de condition. Elle est éternelle, puis sans terme de malédiction. Et le prophète ajoute aussi que cette alliance-là qui va être établie, elle va arriver par la venue de l'élu de Dieu, celui que Dieu choisit. Encore une fois, c'est le thème de l'élection. Donc la nouvelle alliance va être aussi établie par une élection, celui que Dieu choisit, son Messie. Ésaïe 42, merci. Donc, mon serviteur, mon élu, vraiment celui qui est choisi par Dieu, celui qui est oint, le Messie. Là, on arrive au Nouveau Testament et on apprend que cet élu, c'est Jésus de Nazareth, celui que Dieu a choisi, le Christ. Quand Dieu l'a fait entendre sa voix dans la nuée, c'est pendant la transfiguration, ça, dans Luc 9, il dit « Celui-ci est mon Fils élu ». Écoutez-le, Jésus est descendant d'Abraham, les évangélistes insistent là-dessus. Dans les évangiles, on le voit, il est fils d'Abraham, fils de David, descendance de la femme aussi, et Luc fait remonter la généalogie jusqu'à Adam, fils de Dieu. Il est de la lignée là, de la descendance de la femme. Et c'est par lui qu'on a la victoire sur le serpent. La victoire sur le serpent est procurée à l'humanité, par cet élu. Et dans un sens, il a réussi là où Israël a échoué, à répétition. Il est comme le véritable Israël. Toutes les promesses que Dieu a faites, toutes les promesses de bénédiction en Jésus sont vraies, puis il n'y a aucune malédiction. Mais la beauté aussi de la nouvelle alliance, c'est que Dieu ne fait pas une alliance seulement avec Jésus. Jésus ne reste pas seul. Il forme un nouveau peuple qui est circoncis de cœur. D'abord avec les Juifs, là, ceux qu'il a choisis au départ, les 12 apôtres, étaient juifs. Et comment est-ce qu'ils ont été désignés, ces apôtres-là? Vous vous souvenez de ce que Jésus dit dans Jean 15, 16? Ouais, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il leur rappelle. C'est lui qui leur a dit, suivez-moi. Donc, dès le départ de ce nouveau peuple-là, on voit que Dieu choisit, même individuellement, chacun des membres. Même Judas, c'est vrai. C'est vrai, on va revenir sur ce point-là tantôt. J'ai l'impression qu'on va manquer de temps, peut-être. Il faudrait reculer l'horloge. Jésus a été choisi par Dieu comme fondement pour son peuple, fondement de l'Église. Et pour en faire partie, bien, il faut s'ajouter, il faut aller à Jésus. Un Pierre le dit, approchez-vous de lui, de Jésus, parce qu'il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. L'élection est encore rappelée. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'Église, dans le Nouveau Testament, elle-même, elle est appelée l'élu. Vous, par contre, vous êtes une race élue. Pourtant, on n'est pas physiquement de la même race, mais ensemble, on est une race spirituelle élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et même chacun des individus dans l'Église est un élu. En Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Colossiens 3, ainsi donc, comme des élus de Dieu, chacun de vous, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, ça nous est rappelé, on est des élus de Dieu, on doit se comporter en tant que tel. On fait partie d'un peuple élu, mis à part, consacré à Dieu. Annoncer les vertus dans le monde. Puis là, on arrive à une question qui est étonnante et qui est encore débattue souvent. Le Nouveau Testament révèle une chose étonnante à propos du moment de l'élection. Quand a-t-elle eu lieu? On va voir quelques versets là. OK, quelqu'un qui a du souffle peut nous lire Éphésiens 1, 1 à 12. Quelqu'un d'autre, 1 Pierre 1. Quelqu'un d'autre, les deux versets d'Apocalypse. Bon, c'est assez clair. Donc, à quel moment a eu lieu l'élection avant la fondation du monde? 1 Pierre 1, 18 à 20. Oui, là, ici, on ne parle pas spécifiquement de l'élection de ceux qui sont sauvés, mais l'élection de Jésus en tant qu'agneau pour être sacré. Ça, ça a été décidé avant même la création du monde. Apocalypse 13 dit quelque chose de semblable aussi. Là. Il joint les deux, je pense. Oui, donc ceux qui l'adoreront, ici, on parle de ceux qui vont adorer la bête. Ils n'ont presque pas le choix, là, mais ils vont adorer la bête parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie et leur nom n'a pas été écrit avant la fondation du monde. 17-8, ça va? Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Des contre-arguments? C'est bon? Des questions? Bien, ça amène à un autre sujet qui est connexe, mais c'est celui de la prédestination. Donc, on voit ceux qui vont adorer la bête, là, c'est tous ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie. Ils sont destinés à adorer la bête. Et ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie avant la création du monde ne vont pas adorer la bête. Donc, il y a des destinées différentes. On parle de la prédestination, une destinée qui est établie d'avance. Donc, l'élection à l'avance de ceux qui seront sauvés implique l'autre doctrine qui est la prédestination. Paul en parle dans Romains 8, 28 à 30. Oui, donc ceux qu'il a choisis, il les a prédestinés à être sauvés. On voit ça dans Actes 13, 48, une petite phrase dans le texte, mais c'est frappant, là. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et c'est vraiment pas l'inverse, c'est pas « et tous ceux qui crurent furent destinés à la vie éternelle ». C'est vraiment dans cet ordre-là là, que c'était. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, le corollaire est aussi vrai, même si la Bible n'insiste pas là-dessus, insiste moins, bien, elle n'insiste pas. Elle va le mentionner, mais les non-élus ne peuvent pas croire. Et ça, quand même, Jésus en parle. Dans Jean 6, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Si le Père ne t'attire pas, tu ne vas pas croire. Dans Jean 10, c'est là où Jésus parle qu'il est le berger et les brebis le suivent. Mais il dit autre chose aussi, dans Jean 10, 26 à 28. Donc, Jésus ne dit pas, « Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. » Il dit l'inverse. « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas de mon troupeau élu, et c'est pour ça que vous ne croyez pas. » C'est des paroles qui peuvent sembler dures, là, mais c'est la parole de Jésus. Oui, c'est choquant. Mais ça force la personne à se poser la question, « Wow, OK, est-ce que je suis vraiment est-ce que je suis une brebis de Jésus, là? » Est-ce que je suis élu? Est-ce que je suis choisi pour croire? Il y en a qui se convertissent à cette réflexion-là. L'Ancien Testament aussi montre à quelques reprises des hommes et des peuples qui ont été choisis par Dieu, mais pas pour le salut. Parfois même comme des ennemis. Le Pharaon a été désigné par Dieu à l'avance. Dans Exode 4, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, parce que Moïse a grandi là-bas, puis il était parti, mais il dit, « Maintenant, en retournant en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. » De pouvoir changer sa main, là, qu'elle soit couverte de lèpre, et pas, ou le bâton qu'il pourrait jeter par terre, qui change en serpent. Et tu les feras devant le Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Il va même déclarer plus tard au Pharaon, je t'ai suscité expressément pour ça, là, pour que tu me tiennes tête, là, puis que je puisse montrer ma puissance. Dieu a choisi aussi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Dans Jérémie 25, il dit, « Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, mais voici, j'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » C'est pas parce qu'il était un adorateur de l'Éternel. Dieu l'a choisi pour qu'il accomplisse sa volonté. « Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, contre toutes ses nations alentour, afin de les vouer à l'interdit et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie, des ruines éternelles. » Oui, c'est vrai. Oui, il ne faut pas citer hors contexte. Il y a des gens qui regardent les gouvernements actuels, là, ceux qui gouvernent les nations, qui vont dire « Ah, lui, il est choisi par Dieu. » C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il est vraiment un serviteur de Dieu. Et on a l'exemple aussi, bon, on l'a souligné tantôt dans le Nouveau Testament, on a l'exemple de Judas, qui était destiné à trahir Jésus. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? » Et l'un des douze est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer. C'était le plan de Dieu. Là. Judas a été choisi pour ça. Il devait livrer Jésus. Lui, l'un des douze. Ça ne veut pas dire, par contre, ça n'excuse pas Judas. Même, on mentionnait Nebuchadnezzar, plus tard aussi, il va devoir payer pour tout le mal qu'il a fait au peuple. Même s'il servait le plan de Dieu, là, il était responsable du mal. Ça nous amène à se poser quelques questions. Il y a des mauvaises compréhensions de qu'est-ce que ça veut dire l'élection. Une première mauvaise compréhension, si on parle avec un musulman d'ailleurs, puis qu'on parle de ça, il dit, oui, on sait, la prédestination que vous parlez dans la Bible, là, c'est le fatalisme. Dans l'islam, la notion du fatalisme, c'est que Dieu a tout écrit, chacun des événements, tout ce qui se produit, et on ne peut rien changer à quoi que ce soit qui arrive. Et jusqu'à un certain point, on n'est pas responsable. Ça enlève une part de responsabilité de nos actions parce que Dieu les a écrites à l'avance. Donc, c'est vraiment le fatalisme, c'est qu'on regarde ce qui se passe seulement du point de vue de Dieu, que tout est écrit, que l'homme ne peut rien changer. Inch'Allah. Mais la Bible ne présente pas ça comme ça. La Bible présente plutôt que Dieu veut être en relation avec l'homme, une relation réelle. Ce n'est pas juste une pièce de théâtre. Dieu veut être en relation avec l'homme. L'homme le prie. Dieu répond à sa prière. Il le bénit. Même plusieurs fois, on voit que Dieu change d'idée. Dieu interagit, là, puis... Donc, comment ça fonctionne tout ça? Là? C'était déjà prévu que Dieu allait changer d'idée. C'était déjà écrit. Mais ça nous dépasse. Mais donc, ce que la Bible présente, ce n'est pas seulement le point de vue de Dieu qui est souverain, c'est le point de vue de l'homme aussi, que Dieu veut être en relation avec nous. Il interagit même en temps réel avec nous. Il est entré dans le temps lui-même qu'il a créé. Il interagit avec sa créature. Quand Jésus dit qu'il invite le monde à croire en lui, l'invitation est réelle. Les gens vont être jugés s'ils répondent ou non à cette invitation-là. Il dit dans Jean 3, 18 que ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. C'est vraiment... Ils ne sont pas jugés parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Là. Ils sont jugés parce qu'ils refusent de croire. Vraiment pour un refus pendant l'histoire, pendant leur vie. Donc l'élection, la prédestination n'implique pas le fatalisme. Ou le déterminisme, c'est pas vrai. La Bible présente pas ça comme ça. Elle présente comme deux vérités. Là, Dieu est au contrôle souverain, mais les hommes sont responsables toujours de leurs actions. Il y en a aussi pour essayer de régler cette tension-là, parce que dans nos esprits, c'est impossible à réunir. Là, ces deux vérités. Ils vont dire que l'élection, c'est seulement basé sur la connaissance que Dieu a de l'avenir. Donc, Dieu choisit ceux dont il voit qu'ils vont croire en lui. Donc, il a vu d'avance que Huguette allait croire, donc il l'a choisi. Il dit, ah, Huguette va croire en 2000, je ne sais pas quoi. Ben, en quelle année tu t'es converti? Wow! Donc, Dieu a vu, Huguette va croire en moi en 1981, donc j'écris son nom dans le livre de vie. Donc, Dieu a basé son élection seulement sur une préconnaissance qu'il avait, une préscience. Et pourquoi l'avoir fait avant de créer tout le monde, avant la fondation du monde? Oui, ça réduit la souveraineté de Dieu. Mais c'est basé aussi sur dans Romains 8, où Dieu dit qu'il nous a connus d'avance. Mais Dieu ne dit pas seulement qu'il a su d'avance qu'il allait être les élus. Il nous a connus d'avance. Vous l'avez connaître dans la Bible, c'est plus profond que ça. D'avance, il nous a aimés. D'avance, il a vu qu'il sera en relation avec nous. Il nous a choisis pour être en relation. Et donc, c'est un lien intime, un lien d'amour déterminé par Dieu à l'avance. Il nous a prédestinés, comme on l'a lu tantôt dans Éphésiens 1, 5, selon le dessein bienveillant de sa volonté. Wow, ça fait beaucoup de mots à ajouter, hein? Ça ne pourrait pas être plus clair. Il nous a élus selon le fait qu'il est le boss, selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Un autre argument, c'est que l'élection serait incompatible avec la liberté de l'homme. Si Dieu décide, alors comment on peut dire que l'homme a un libre arbitre? À première vue, ça semble carrément incompatible. Mais il faut se rappeler que dès la création, l'homme n'a jamais été totalement libre. Premièrement, il a été créé comme un être limité. On n'a pas été créé comme des dieux. Le serpent a dit « Mangez du fruit de l'arbre défendu, là, comme ça vous allez devenir dieu. » On n'est pas des dieux, on n'est pas tout puissant, on n'a pas toute la connaissance, on ne peut pas être partout en même temps. Dès le départ, on a été créé comme des êtres limités. Et l'homme n'avait pas la permission de faire tout ce qu'il voulait. Il n'avait pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce n'était pas l'absolue liberté dès le début. L'homme a été créé limité pour remplir des fonctions précises. Et depuis la chute, l'homme est encore plus limité. En fait, il a perdu même sa capacité à prendre des décisions par lui-même parce que l'homme est devenu esclave du péché. Oui, c'est vrai, c'est un complément. Et ça vient régler le problème de l'esclavage. Parce que depuis la chute, tous les hommes, même s'ils se pensent des libres penseurs, sont conditionnés par le fait qu'ils sont pécheurs. Même les philosophes qui ont écrit des grands livres, il y a le péché qui est là-dedans. Les hommes sont incapables de se sortir du cycle du mal. L'orgueil vient toujours infiltrer l'idolâtrie et ça conditionne leur vie. Et même ces disciples qui prennent des décisions, qui sont le seul libre arbitre dans la décision qu'ils ont prise, ils sont forcés de prendre de mauvaises décisions parce qu'ils sont conditionnés par le péché. Le péché est leur maître. Donc, Jésus, et même l'élection de Dieu qui nous sort de cet esclavage-là, nous rend libres. Tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Dans Romains 3, on lit ça. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Même si quelqu'un décidait d'être juste, il n'est pas capable. Et nul ne cherche Dieu. Un dernier argument contre, c'est que l'élection serait incompatible avec la nature de Dieu. Parce que Dieu ne serait pas miséricordieux s'il ne décidait pas de sauver tout le monde. Dieu dit qu'il est miséricordieux, donc s'il décide de ne pas sauver tout le monde, ça rentre en contradiction. Il n'est pas vraiment miséricordieux. D'autres vont dire, Dieu serait injuste en blâmant ceux qui refusent de croire en Jésus, parce qu'ils sont incapables de croire en Jésus. Donc, pourquoi qu'il leur en tient rigueur, là? Il ne devrait pas les blâmer, puisqu'ils peuvent pas se repentir. Mais Dieu a le droit de faire grâce à qui il veut. Et il serait parfaitement juste de ne sauver personne. Donc, tous, ça serait sa justice, que tous périssent en enfer. Et Dieu, dans sa grâce, il en prend, il les sauve. Bien, on va lire le fameux passage de Romains 9, puis on arrive à la conclusion. Tiens, Bernard, pourrais-tu nous lire ça, s'il vous plaît? Romains 9, 10 à 23. En conclusion, la Bible présente deux vérités qui sont paradoxales, mais elles ne sont pas contradictoires, elles sont compatibles. Dans sa souveraineté, Dieu a choisi à qui il veut faire grâce et il les prédestine à croire en lui. Mais Dieu veut que les hommes prennent cette décision-là, là, volontaire, une décision consciente, volontaire de croire en lui, de lui obéir. Mais ceux qui vont croire en lui, ce sont ceux à qui Dieu accorde la foi. Et même ils sont récompensés. C'est ça qui est assez incroyable, là. Non, rien. Ceux qui ne croient pas en sont responsables et ils sont punis. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, du début à la fin, est établi par l'élection. Il a choisi la descendance de la femme. Il a choisi Abraham, il a choisi le descendant d'Abraham et de David, Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont sauvés par la foi, ils ont été choisis. Plusieurs passages qu'on a lus tantôt dans différentes sections montrent que l'élection sert à la gloire de Dieu. C'est à Dieu que revient toute la gloire. Personne ne peut se glorifier. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est ça que Paul le rappelle, pour que personne ne se pète les bretelles. Les prédestinés au jugement, bien, servent à montrer la justice de Dieu. Les prédestinés au salut servent à montrer sa grâce. Savoir que nous sommes élus est un grand réconfort. C'est quelque chose qu'on peut se rappeler quand ça ne va pas bien, là. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est quelque chose qui nous garde humbles et qui nous garde un sujet de louange. Un Thessalonicien 1, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Nous savons, frères bien-aimés, que Dieu, que vous avez été élus. On lisait tantôt dans Éphésiens qu'on va pouvoir louer Dieu pour l'éternité, pour la gloire de sa grâce. Il nous a fait grâce. Il est intervenu souverainement pour nous sauver. Et merci Seigneur Dieu de nous avoir élus et on reconnaît qu'on ne mérite pas. On n'a pas fait aucune œuvre là, qui serait digne que nous puissions recevoir l'immense cadeau, hein, de la vie éternelle. Au contraire, on méritait la condamnation. Merci pour ta grâce envers nous. Merci, ça nous encourage aussi à évangéliser. On sait qu'on ne travaille pas en vain. Tu as un peuple nombreux dans cette ville, comme tu l'as dit à Paul, et on peut travailler parce qu'il y a encore des élus qui vont se convertir. Et on peut prier pour nos proches, pour des hommes et des femmes, pour les gouverneurs, parce que tu promets que tu vas en sauver. Merci Seigneur pour ta parole qui est claire à ce sujet. Au nom de Jésus, amen.